Bonjour à chacun, chacune. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez en tout cas, en particulier, pu avoir une célébration de Noël qui a été un moment de paix et un moment de joie. Ce matin, je vous propose un passage dans la première lettre de l'apôtre Jean, une lettre dans laquelle nous plongerons probablement nos regards aussi la semaine prochaine. Avez-vous déjà fait un bilan de l'année 2019 ? Avez-vous déjà des projets ou de bonnes résolutions pour 2020 ? Le passage que nous allons lire, je pense, nous permettra peut-être un certain bilan et certaines résolutions. L'apôtre Jean, a probablement écrit ce texte vers la fin du 1er siècle, dans les années 80 ou 90, environ donc 50 ou 60 ans après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Et c'était une période qui n'était pas nécessairement facile. Il y avait des persécutions. Il y avait aussi des mauvais enseignements, contraires à celui de Christ et des apôtres. Et comme la Bible, le livre de référence que nous avons aujourd'hui, n'était pas encore pleinement constitué à l'époque, imaginez combien ça pouvait être difficile de discerner la vérité de l'erreur. Il y a ainsi de nouvelles spiritualités très attrayantes qui entrent à l'époque en concurrence avec l'Évangile. Je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y ait jamais eu des périodes spirituellement faciles, mais celle-là ne l'était pas en tout cas. Et Jean s'attache donc à rassurer, à conforter les chrétiens de l'époque, mais aussi à les avertir et les mettre en garde. Et je vous invite à lire, si ça veut bien marcher. Personne là-bas. Remets en fenêtre active le psalmo. Voilà. Après, ça devrait être bon. Tu ne touches plus. Ouais. Première lettre de Jean, chapitre 2, à partir du verset 12. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Et ça marche pour vous. Pedro, tu pourrais aller là-bas pour passer les trucs. Il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui. Mais... N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueil de la vie, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et son désir aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ? Si on voulait résumer un peu, en quelques mots, un des enjeux centraux que l'apôtre Jean développe dans toute sa première lettre, on pourrait à juste titre considérer cette question, une vaste question. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ? C'était une question importante pour ceux à qui Jean écrivait. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'a rien perdu de sa pertinence. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous poser cette question, ou peut-être formuler un peu différemment, du style « Mais est-ce que je suis un vrai chrétien ?» Est-ce que ma vie manifeste une vraie différence d'avec les personnes qui ne connaissent pas le Christ ? Est-ce que l'Église manifeste clairement qu'elle est différente du monde ? Jean aime les oppositions fortes et tranchées. Et vous l'avez peut-être remarqué en lisant son évangile notamment aussi. Il y a les oppositions vérité-mensonge, lumière-ténèbres, amour-haine, vie-mort. Et dans ce passage, c'est l'opposition Église-monde. D'un côté l'Église, la communauté des chrétiens, des vrais chrétiens, versets 12 à 14, et de l'autre le monde, versets 15 à 16. La suivante. Un peu déroutant quand même cette façon d'écrire qu'a l'apôtre Jean. Qui sont ces enfants, ces jeunes gens, ces pères? On pourrait croire qu'il s'agit de différentes tranches d'âge dans l'Église. C'est possible, mais il est plus probable que ce soit différents stades de maturité spirituelle. Comme les chrétiens sont tous des enfants de Dieu, certains théologiens voient plutôt deux stades du développement spirituel, jeunes gens et adultes. D'autres voient les trois, les enfants qui sont les nouveau-nés en Christ, les jeunes gens qui sont des chrétiens plus avancés, puis les pères qui sont des adultes matures dans leur foi, avec une certaine profondeur, une stabilité qu'a apporté leur expérience de marche avec Dieu. Deux ou trois, peu importe, à mon avis, ce n'est pas sur ça qu'on... On va se concentrer ce matin, mais plutôt sur ces affirmations que Jean répète avec certaines nuances ou différences. Et Jean veut en effet exprimer, pour rassurer ses lecteurs, exprimer sa confiance dans la réalité de l'expérience chrétienne qu'ils ont faite. Il met ainsi en avant trois vérités essentielles pour eux et qui, je pense, nous concernent nous aussi encore aujourd'hui. Premièrement, vos péchés vous sont pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, le pardon. C'est certainement la base indispensable. Le pardon est la première réalité spirituelle dont les nouveau-nés en Christ prennent conscience. C'est la délivrance de la culpabilité du péché et de la condamnation divine. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ? Ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit que Dieu l'aime, même si c'est important, c'est aussi quelqu'un qui dit, qui peut affirmer que ses péchés sont pardonnés. Et je pense que c'est là une différence, même la différence fondamentale entre un chrétien et un non-chrétien. Une différence qu'on ne peut pas minimiser, en tout cas que Jean met en avant, car elle est fondamentale. Je pense que tout être humain aspire à une certaine élévation, à prendre une certaine hauteur par rapport au monde, par rapport au quotidien. Et si Dieu existe, ils veulent bien volontiers obtenir ses faveurs, son amour, ses bénédictions. Et effectivement, c'est légitime. Globalement, le spirituel intéresse les gens. Et en effet, beaucoup de spiritualité propose des tas de trucs. Et je regardais avant-hier dans une station-service. Il n'y a pas que des bidons d'huile et des bidons d'essence dans la vente dans les stations-service. Il y avait tout un rayon de... C'est ce qu'il faut appeler ça littérature, je ne sais pas trop, mais... de livres sur le bien-être, la méditation, les saints guérisseurs, les bienfaits des plantes, les bienfaits des pierres, la relaxation, le yoga, spiritualité, ceci ou cela. J'ai regardé que les titres, mais à mon avis, aucune ne parlait de péché. Péché ? Quel péché ? Ah, encore ces vieilles histoires religieuses. C'est probablement ce que pensent beaucoup de nos contemporains. Les gens n'ont effectivement pas, ou plus, conscience du péché qui pourtant, fondamentalement, sépare l'être humain du Créateur. Ne comptons pas sur la société, endormie ou aveuglée par le malin, pour le mettre en évidence ou même leur rappeler. On peut même être religieux, voire très religieux, spirituel, entre guillemets. Certains bibliques, des évangiles en particulier, le soulignent. Beaucoup de monde croit en l'existence de Dieu, ou d'un Dieu en tout cas. Beaucoup appellent même Jésus Seigneur, Seigneur. Il ne s'agit pas ici de les blâmer. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, pas du tout. Et c'est même certainement sincère pour la plupart des gens. Mais à titre individuel, un non-chrétien n'a pas encore pris conscience et reconnu que son propre péché le sépare de Dieu. C'est aussi simple que cela, et la Bible en tout cas l'affirme. Ainsi, seul un chrétien authentique un vrai chrétien, à mon avis, il n'y a pas de faux chrétien, parce qu'on est chrétien ou on ne l'est pas, mais un chrétien authentique reconnaît tout d'abord et avant tout Jésus comme son sauveur personnel. Et cela fait toute la différence. N'est-ce pas ce que nous avons célébré à Noël, il y a quelques jours, la naissance du sauveur? J'ai pas besoin de sauveur, moi, j'ai pas de péché. Si on ne reconnaît pas son péché, effectivement, on n'a pas besoin d'être sauvé. Sauvé de quoi? Moi, je suis un pécheur, et j'ai eu besoin d'être sauvé. Et désormais, je suis sauvé, parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai obtenu son pardon en Jésus-Christ, par la foi et par sa grâce. Oui, vous le savez, bien sûr, c'est aussi simple que cela. Mais pourtant, très nombreux sont celles et ceux qui ne voient pas, ne comprennent pas ou ne veulent pas de ce passage obligé. Passage obligé qui donne le salut, la vie éternelle. Par ce pardon et seulement par ce pardon, Dieu donne la vraie liberté. Par ce pardon, nous devenons enfants de Dieu. Tant de choses essentielles en découlent. Plusieurs se sont convertis cette année 2019. Il y a eu Cindy, il y a eu Eric et Valérie, Jean-François aussi, un ami de Pedro, et certainement plein d'autres encore que j'oublie, sans compter tous ceux qui, à travers le monde, je ne connais pas. Ils ont reconnu être pécheurs, ils ont été pardonnés. Et c'est un énorme sujet de joie, je l'espère, sur terre comme dans le ciel. Réjouissons-nous toujours de cela et ne nous lassons pas de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, même s'il y a ce gros point qui bloque souvent de dire il y a le péché. Mais on ne veut pas se focaliser sur ce péché, on veut surtout se focaliser sur le pardon des péchés. C'est ça qui change tout, le pardon des péchés. 2020 sera encore une année de grâce. Deuxième point que Jean soulève, vous connaissez. Vous connaissez Dieu. La connaissance est certainement quelque chose de mis en avant dans notre société. Son objet ou son sujet peut évidemment varier d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Et il y a assurément eu ces derniers siècles une connaissance ou une recherche de connaissances liées à la science, notamment. Faut-il juste réduire la connaissance à quelque chose d'assez intellectuel? Il y a aussi des idéologies, qui sont à mon avis d'autres formes de connaissances, d'affirmation de connaissances en tout cas. Certaines me semblent déclinantes, comme le marxisme, ou peut-être dans une moindre mesure l'humanisme. Mais vous avez remarqué que d'autres émergent. Écologie, antispécisme, globalisation, ou son contraire, antimondialisme. On dira peut-être que ce ne sont pas vraiment des connaissances, mais quand on voit le militantisme et la radicalité avec lesquelles ces idées sont parfois défendues, on peut, je pense, facilement y voir la mise en avant d'une quasi-confession de foi pour certaines personnes qui a tout pour ses partisans d'une connaissance ultime qu'ils auraient découvert. Il y a aussi indéniablement la sagesse, en tout cas une certaine philosophie, forme de connaissance plus intime et plus spirituel peut-être, recherche d'élévation ou d'un bien-être, une certaine mystique. Alors mystique, pour celles et ceux qui ne connaissent pas comme moi, j'ai regardé dans le dictionnaire hier, et je cite, « pratique et croyance visant à une union entre l'homme et la divinité ». Je pense que beaucoup de gens sont dans cette recherche de mystique. C'est quelque chose d'assez en vogue même, je pense, de nos jours, je l'ai déjà évoqué. Même si c'est peut-être assez flou, comme dans certaines pratiques orientales qu'on a importées en Europe, le zen, le yoga, la relaxation, je ne sais pas si tout le monde a conscience de la portée spirituelle qu'il y a derrière. Mais ces appels à s'élever... La suivante, Pedro, s'il te plaît. Ouais. Ces appels à s'élever, à gagner en connaissance, à franchir des paliers dans une sorte de religion initiatique, même si de nos jours c'est sûrement plus subtil et voilé que ça, C'était déjà ce que Jean voulait dénoncer et combattre dans ses écrits. À la fin du 1er siècle apparaissait ce qu'on appelait les germes du gnosticisme, qui était un certain courant de pensée très présent dans le bassin méditerranéen. Et même au sein de l'Église, certains enseignaient une vision élitiste du salut, en disant que la connaissance immédiate que tout le monde peut avoir de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Seuls certains initiés qui grandissent dans cette connaissance par leurs efforts, qui franchissent des paliers, auront et pourront atteindre le salut à certains moments. Et cette connaissance gnostique ne passe d'ailleurs pas nécessairement par le Christ biblique, même si c'est le médiateur décidé par Dieu. D'ailleurs, pas vraiment besoin de révélation de la part de Dieu, c'est l'homme qui s'élève dans la connaissance. Et on retrouve effectivement cela encore dans pas mal de schémas de pensée et de spiritualité aujourd'hui. Et Jean s'y oppose vivement en disant « Non, vous connaissez déjà ». Il veut insister sur le fait de déjà connaître, de déjà avoir la connaissance nécessaire et suffisante au salut. Et c'est le cas quand on est chrétien. Il s'agit d'une conjugaison en grec qui n'existe pas en français, mais qui exprime l'idée de quelque chose de passé, dont les effets continuent encore aujourd'hui. Vous connaissez, ok, mais vous connaissez quoi? Vous connaissez qui? La connaissance qu'offre Dieu est bien différente de ce que le monde propose. La connaissance qu'offre Dieu, c'est la connaissance de lui-même. La connaissance du Père et la connaissance du Fils éternel par le Saint-Esprit qui nous les révèle. Et ne pouvons pas en être déçus. Rien n'est plus important que de connaître Dieu, de vraiment connaître Dieu, intimement, personnellement. On a beaucoup insisté, j'ai essayé de beaucoup insister dessus ces derniers temps. Qui est notre Dieu? Est-ce que nous le connaissons vraiment? Est-ce que nous le connaissons bien? Avec le pardon des péchés, et j'insiste avec ce « avec », c'est pas plus tard ou peut-être, c'est bien avec. Avec le pardon en Christ, nous obtenons la connaissance de Dieu. Une connaissance immédiate, nouvelle et intime. Désormais, je connais Dieu. Je connais Dieu comme le Père, comme mon Père, on l'a chanté dans ce dernier chant. Je ne sais pas si votre Père terrestre a été un bon Père ou l'est encore. Dieu, en tout cas, lui, est un Père aimant, et on l'a bien souligné déjà dans la première partie du culte, avec lequel nous sommes en paix. Et je connais aussi Christ, celui qui est dès le commencement. Nous pouvons nous réjouir dans sa communion. Et c'est le privilège de tout chrétien. Quelles affirmations extraordinaires et merveilleuses de la part de Jean. Et en fait, d'extraordinaire, c'est plutôt l'ordinaire du chrétien. La communion avec Dieu, c'est notre ordinaire, notre quotidien. Ça devrait l'être en tout cas. Et cela n'en reste pas moins merveilleux. Bien sûr, cette connaissance peut et doit grandir. C'est ce que j'essayais de montrer dans le schéma de droite là. Il y a effectivement un saut entre au moment de notre conversion dans la connaissance réelle de qui est Dieu, mais ensuite on grandit encore. Pas des étapes initiatiques, mais bien le privilège d'approfondir une relation et une communion déjà établie. Le privilège de toujours mieux connaître Dieu, de ressembler à Christ aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui nous donne envie? On se dit « Ah, c'est bon, j'en connais assez ». Pas se fatiguer non plus. Hein. C'est en tout cas le programme dès notre nouvelle naissance. Et chaque jour ensuite, chaque jour pendant tout notre parcours terrestre, mais même aussi chaque jour pendant notre parcours céleste. Nous connaîtrons parfaitement Dieu seulement à la fin de l'éternité. Chaque jour, même dans l'éternité, nous connaîtrons toujours davantage Dieu. Chaque jour, je peux vivre plus intensément ma relation avec lui. Chaque jour, je peux découvrir de nouvelles merveilles de lui et en lui. Enfants, adolescents, adultes, oui, nous grandissons petit à petit. Lentement mais sûrement, comme dit un adage. C'est le propre de la croissance et il nous faut de la patience. Et ce n'est pas toujours facile au siècle de la vitesse et de l'immédiateté. Et nous prendrons conscience, passant de l'adolescence spirituelle à l'âge adulte, que nous sommes aussi pas seulement là pour recevoir, mais aussi pour donner, pour transmettre. Et c'est sûrement pour cela que Jean utilise cette notion de paternité. Il ne dit pas adulte, il dit père. Il aurait pu aussi écrire mère, mais en lien avec la mission que nous avons tous reçue, de faire des disciples, nous devenons, je l'espère, si nous le voulons bien, en nous mettant au service du Seigneur et de l'Église, des pères et des mères spirituelles pour de nouvelles personnes qui découvrent Dieu. D'autres à qui nous transmettons les valeurs de Christ, que nous aidons à grandir et à s'affermir. Mais pour ce qui nous concerne, seule une connaissance accrue de Dieu et sans cesse renouvelée, alimentée, peut nous permettre cela. Et chacun, chacune, a effectivement une belle et pleine utilité dans le corps de Christ. En tout cas, au sein de l'Église, ne l'oublions jamais, l'interdépendance des générations, que ce soit en termes d'âge, mais aussi en termes de maturité spirituelle. Les plus jeunes ont besoin des aînés, de leur expérience, de leur encouragement. Les plus aînés ont aussi besoin des plus jeunes, de leur force, de leur soutien, de leur amour, de leur prière. Tu mets la suivante, Pedro ? On revient à ces versets. La troisième chose que Jean met en avant, c'est la victoire. Le désir de réussir est certainement quelque chose de très fort dans l'être humain, peut-être même trop mis en avant dans notre société. En tout cas, Dieu seul donne la vraie victoire. Pourtant, dans les deux fois où Jean en parle, il ne dit pas que Dieu a vaincu le mauvais, mais il dit bien « vous avez vaincu » en parlant aux chrétiens. Le monde essaye de nous ravir les privilèges que nous avons en Dieu. Et il y a effectivement un combat à mener. Mais notre combat, c'est d'affirmer, de proclamer que la victoire a eu lieu. Christ l'a remporté, et c'est parce que Christ l'a remporté que nous aussi, nous la remportons. Nous pouvons le faire avec la parole qui demeure en nous et qui est mise en action dans nos vies. Et c'est important d'insister là-dessus. La force du chrétien, c'est parce que et quand la parole demeure en lui. Ne croyons pas de façon présomptueuse pouvoir nous en passer. Nous devons, au contraire, absolument nous en nourrir. La victoire acquise par Christ à la croix sur la chair, sur le monde, nous permet d'accéder au commandement de Dieu de ne pas aimer le monde. Est-ce que certains parmi nous ont des combats à mener ? Oui, nous avons tous des combats à mener. Et c'est normal. Plus nous serons, nous aussi, radicaux dans notre engagement pour le Seigneur, et plus l'ennemi sera mécontent. Il ne voudra pas nous laisser tranquilles. Et chose surprenante aussi, Dieu, dans sa souveraineté que nous avons peut-être souvent du mal à saisir, voire à accepter, il laissera une certaine marge de manœuvre à l'ennemi pour nous attaquer. Dieu accepte l'intervention perturbante et troublante de Satan, qui ne lui échappe jamais, mais qu'effectivement, qui il laisse une marge de manœuvre. Mais Dieu a un but en cela, c'est bien de nous faire grandir et de permettre au final notre victoire pour rendre gloire à Dieu. Paul écrivait à ce sujet, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » J'ai pas encore réussi à tout comprendre, mais Dieu, toi tu sais. Toi tu sais, et avec ce que je connais de toi, à la fois tellement, mais aussi encore si peu, face à ton immensité et à ton éternité, je te fais confiance. je te fais confiance. Quoi qu'il en soit, et je l'espère, oui, nous pouvons réaliser, même s'il se peut qu'il y ait des rechutes temporaires, j'espère que nous réalisons que nous progressons effectivement dans notre vie spirituelle, que nous grandissons et que nous gagnons par la grâce de notre Seigneur dans notre combat contre le péché, en laissant Christ régner en nous, en laissant l'Esprit prendre plus de place en nous et nous animer, nous guider chaque jour. C'est notre chemin de sanctification. Pardon des péchés, connaissance de Dieu, victoire sur le malin. Si vous devez faire un bilan du passé, de l'année 2019, ou même des années précédentes, j'espère que vous faites ce bilan-là. Retenons ces trois choses que nous avons vécues, que nous vivons en tant que chrétiens. Pardon, connaissance, vraie et bonne connaissance, victoire. Que le Seigneur puisse nous fortifier par ses rappels. Amen. On verra la suite la prochaine fois. Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu es amour, et on l'a rappelé ce matin, et on le fait bien. Mais tu n'es pas juste un Dieu gentil comme ça, qui passe l'éponge sur nos travers, non. Nos travers, nos péchés, t'ont coûté très cher. Ils ont rendu nécessaire ta venue sur terre, ton sacrifice à la croix, ta mort puis ta résurrection. Mais ce péché n'est pas une fatalité. Ce péché qui nous séparait de toi, tu le pardonnes. Et ça, je ne l'entends pas ailleurs que dans ta parole. Tu es le seul, parce que tu es le Créateur, qui connaît réellement la cause du problème, la cause du problème du monde et de chaque être humain. Oui, c'est le péché, c'est la rébellion d'avec toi, contre toi. Et je te remercie parce que tu as offert gratuitement, gracieusement, en Jésus-Christ, la solution. La seule solution possible, il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas s'élever par n'importe quelle spiritualité pour essayer de te rencontrer et mieux te connaître. Non, on doit d'abord faire ce constat, te reconnaître être pécheur, et puis saisir ce pardon, saisir cette nouvelle vie que tu proposes, cette connaissance réelle de toi, non pas comme un Dieu lointain simplement, effectivement comme l'Éternel, celui qui est le Créateur des cieux, que nous devons craindre et respecter dans le bon sens du terme, mais aussi ce Père aimant, celui qui nous considère comme ses enfants désormais. Quel privilège, quelle grâce, et nous ne nous lassons pas de nous émerveiller, Seigneur, de cette nouvelle nature que nous avons en toi, d'être tes enfants. Oui, merci pour ton pardon. Merci pour la connaissance que nous avons de toi. Et je veux toujours en connaître plus, Seigneur. Je veux toujours que tu m'aides à grandir dans ma connaissance de toi, dans mon intimité avec toi, dans ma communion avec toi, dans ma relation avec toi. Et je ne veux pas le faire égoïstement, Seigneur, mais je veux le faire pour que je puisse mieux le partager autour de moi, mieux le faire comprendre, le faire connaître, et en tout cas prier, intercéder pour les gens que je croise, ceux que j'aime, mais ceux que j'aime pas aussi. Merci Seigneur pour cela, et merci parce qu'en toi nous pouvons avoir la victoire. Tu connais mes combats, tu connais mes luttes internes contre tel ou tel péché. Merci parce qu'en toi nous pouvons avoir la victoire. C'est vrai qu'encore de nombreuses fois je tombe, je chute, je n'ai pas la force. Mais merci parce que ton pardon est sans cesse renouvelé. Merci parce que tu me tends la main. Merci parce que tu travailles en moi, tu me sanctifies, tu me transformes. Des fois j'aimerais bien être transformé plus vite. Mais en tout cas tu acceptes mon rythme lent. Mais tu me transformes jour après jour. Et quand je regarde en arrière, je vois tous les progrès que tu as permis. Et je veux te rendre gloire, te rendre grâce, te remercier. Merci pour chacun et chacune des personnes de l'Assemblée ce matin. Tu connais où chacun en est. Je te remercie pour tous ceux qui ont remis leur vie entre tes mains. Je te remercie pour ceux qui vont encore le faire. Merci pour les nouveaux-nés en Christ. Merci pour les jeunes gens en Christ. Merci pour les pères et les mères spirituels que nous avons. Merci pour ce corps que nous formons en toi et avec toi. Oui, Seigneur, je veux te rendre gloire et te remercier pour tout ce que je vais encore découvrir de merveilleux à ton égard dans les prochains jours, dans l'année prochaine. Et qu'on ait vraiment à cœur en Église, chacun, chacune d'entre nous, de s'encourager dans ce chemin, de se porter les uns les autres dans ce chemin, de prier les uns pour les autres. Renouvelle la force de ceux qui sont affaiblis. Bénis chacun, chacune, pour ta gloire, Seigneur, et ta gloire seule, en Jésus-Christ. Amen.